prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Quatrième partie, Christ digne d'ouvrir le livre scellé.
Alors, nous sommes à la quatrième étude du livre de l'Apocalypse. Je voudrais faire tout d'abord un petit rappel. Il s'agit d'une étude que l'on peut nommer exégétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'Apocalypse, c'est quand même pas un livre très facile à aborder. Alors, en quelque sorte, on pourrait résumer cela par une explication, par un commentaire, par une interprétation du texte biblique, à la fois sur le plan historique, sur le plan doctrinal, et également sur le plan, ce qu'on a nommé, la philologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement à partir d'un texte, eh bien, à partir d'un texte et d'une langue, donner finalement ce commentaire et cette approche. Et c'est tout cela, justement, cette étude de l'Apocalypse, comme bien d'autres livres, naturellement, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'il y a une très forte empreinte de symbolisme, de symbolique. Alors, en quelque sorte, c'est le dernier livre de la Bible, ça serait une sorte d'apothéose, je vais le mettre sous une image, une apothéose finale qui résume tout le contenu prophétique des enseignements de la Bible, de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament, naturellement. En ce qui concerne le Nouveau Testament, les enseignements christiques, c'est-à-dire de Christ, ou apostoliques, les apôtres, sur la finalité de toute chose. Voilà, on pourrait peut-être résumer cela sans être trop compliqué. Et on pourrait, ou certains l'ont comparé, ont comparé le livre de l'Apocalypse à, c'est musical, hein, mais on va parler de musique justement dans ce chapitre 5, hein, et ça tombe bien, à comparer à une fin triomphale clôturant l'ensemble d'une symphonie, c'est-à-dire tous les autres livres de la Bible, dont les éclats musicaux, je cite, eh bien, ces éclats retentissants et glorieux pour achever l'œuvre interpréter. Et ça sera le thème du chapitre 5, parce que nous allons y découvrir des choses tout à fait particulières. En quelque sorte, dans ce chapitre 5, c'est le ciel qui est ouvert et qui s'en trouve, en tous les cas, pour nous montrer ce qui s'y passe. On peut dire également, en introduction, que le livre de l'Apocalypse est le plus moderne qui soit, parce que beaucoup y ont trouvé, ou y trouvent encore, l'encouragement, la consolation, l'espérance dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, et tel que d'autres l'ont vécu naturellement avant nous. On pourrait peut-être dire, le livre de l'Apocalypse, parce qu'il est question d'une grande espérance, c'est l'Église sous la croix avant d'être l'Église, et bien dans la gloire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans ce chapitre 5, je ne vais pas relire ou lire le chapitre, on va le prendre au fur et à mesure des versets. Et la première chose qui nous interpelle, c'est qu'il s'agit d'un chapitre d'adoration. Voilà. C'est le chapitre de l'adoration, et tout à l'heure je vous ai parlé d'une symphonie, je vous ai parlé, eh bien, en quelque sorte, de cette finale, glorieuse, eh bien c'est ce que nous allons voir. Mais ça précède avant tout ce qui va être dit à partir du chapitre 6, du chapitre 6 jusqu'à la fin, parce qu'après nous allons rentrer dans l'étude des jugements. Pour l'instant, les choses sont établies dans ce qui se passe dans le ciel, et il nous est montré d'une manière très claire que si les hommes ne maîtrisent rien, Dieu maîtrise tout. Lui, il ne varie pas. Il a la haute main sur toute chose. Alors on va lire ces versets de 1 à 3 d'abord. Voilà ce que Jean, l'apôtre, le visionnaire de l'Apocalypse, est bien écrit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Le tribunal céleste siège enfin. C'était, et c'est le soupir de l'Église, l'Église combattante. Quand est-ce, Seigneur, tu vas te lever pour mettre un terme à toute cette économie de sang, de violence, de mort ? Maintenant, eh bien, le tribunal s'ouvre. Et Jean y voit, il nous est simplement dit, il y voit un livre scellé de 7 sceaux écrits en dedans et en dehors. On comprend dès lors, puisqu'il est scellé, que son contenu est secret. Il est donc sous-scellé, et tout le monde comprend ce que ça veut dire. En d'autres termes, ce livre qui apparaît à ce moment-là est préservé de toute falsification. C'est pourquoi, eh bien, il est scellé. Il s'agit d'un décret divin contenant les jugements de Dieu sur les nations, et le temps est venu parce que la patience divine est à son terme et que le décret de juger les nations, le monde, les hommes est exécutoire. Il est parlé dans le Nouveau Testament de la longue patience de Dieu. Peut-être quelque part, nous avons aussi le sentiment que Dieu prend son temps. On se dit, mais comment se fait-il que Dieu n'intervient pas, que Dieu laisse faire les choses ? Eh bien là, maintenant, à partir du chapitre 5, dans cette ouverture, dans ce que nous voyons, dans ce qui nous est dépeint, c'est que maintenant les choses vont devenir exécutoires. Elles vont se mettre à exécution. Mais voilà, il y a bien le livre, il y a bien naturellement ces scellés. Mais la question qui est posée, qui aura le droit et le pouvoir d'ouvrir le livre ? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Sur le trône, on l'a vu la dernière fois, puisqu'il était question du trône de Dieu. Il était question des 4 êtres vivants. Il était question des 24 vieillards qui représentent l'Église glorifiée. Mais ce n'est pas à eux d'ouvrir le livre. Ce n'est pas aux anges ou aux archanges d'ouvrir le livre. Et l'interrogation est une très grande interrogation. Qui aura le droit, donc, d'ouvrir le livre ? La deuxième question est celle-ci. Qu'est-il bien écrit dans ce livre ? Ça serait intéressant de savoir. Au verset 2, il est dit ceci. « Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Celui qui sera habilité pleinement pour ouvrir le livre ne peut être un simple homme, mais un homme-dieu, ou un dieu-homme, ou un dieu fait homme. Alors on a naturellement compris ce que ça veut dire. Qui aura fait l'expérience de la faiblesse et des tentations d'ici-bas. Ça ne sera pas un ange, parce que les anges ne connaissent pas la condition de l'humanité. Ça ne peut être qu'un homme ou Dieu fait homme qui a connu l'humiliation, qui a connu ce que nous pouvons connaître ici-bas. Mais c'est un homme vainqueur, nous fait entendre le texte. Il est vainqueur du mal, il est vainqueur de la mort. Et il possède de ce fait la primauté, la royauté et une autorité indiscutable. Alors ça nous approche naturellement du personnage dont nous allons voir maintenant, eh bien, apparaître dans sa gloire. Ce ne peut être un homme atteint par le péché. Il faut qu'il soit saint. Il faut qu'il soit juste. Aucun homme n'est saint et aucun homme n'est juste, on le sait. De plus, il faut qu'il soit en capacité totale d'apporter le remède au malheur et au fléau de l'humanité. Les hommes se sont évertués pendant des siècles et des siècles pour trouver des réponses à la grande question de la mort, du mal, de tout ce qui peut se faire ici-bas et qui ensanglante notre planète. Alors, celui qui aura la capacité d'ouvrir le livre, de briser les sceaux, c'est que non seulement il en aura la dignité, il en aura l'autorité, il en aura le pouvoir, mais il en aura aussi, et il viendra avec le remède. Parce que ce n'est pas le fait seulement de cette première partie, mais il faut qu'il apporte la solution. Il faut qu'il apporte la réponse. Donc, en quelque sorte, puisque le monde est malade de la mort, il faut qu'il apporte le remède à tous ses malheurs et à ses fléaux. Il faut aussi qu'il ait la force souveraine pour remettre en place tous les désordres et rétablir le bien et la vérité bafouée en unissant la grâce et la justice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette alliance entre la grâce et la justice. Le Dieu créateur réclame la justice, mais le Dieu de miséricorde fait grâce. Et on sait qu'à travers le message du Nouveau Testament, la grâce prévaut sur la justice. Ce n'est pas que la justice est annulée, que Dieu se tait sur la justice, mais la justice sera accomplie par la grâce. Alors on entrevoit naturellement la réponse qui nous est donnée de la mort expiatoire de Jésus à la croix. Parce que ça a été la réalisation. Comment faire ? La loi ne peut nous amener à la justice. Parce qu'aucun homme n'est capable de la réaliser. Il n'y avait que celui qui pouvait se présenter devant Dieu de dire, eh bien maintenant, tu détournes ta justice de cette humanité perdue, tu me frappes moi pour que je me substitue à eux et qu'à ce moment-là, eh bien, tu leur fasses grâce en raison de ma mort, en raison du don de ma vie, pour qu'ils puissent être sauvés. Donc, on comprend bien que ça demande une force divine, une force souveraine pour rétablir tout ce qui a été bafoué dans le monde, la vérité qui est piétinée, la justice et tout le reste que nous connaissons. Ensuite, celui qui sera digne d'ouvrir le livre, de briser les sceaux, il faut que ce jugement soit une réparation. On a parlé de remède, mais il faut qu'il soit une réparation. Il faut qu'il soit une consolation devant toute cet océan de malheurs, de pleurs, de cris, de larmes. Il faut qu'il soit une restauration, une réparation, une consolation, une restauration, mais elle sera d'une dimension universelle. Ce n'est pas seulement de sauver un peuple, comme la première partie de la Bible nous le dit et nous en parle au titre d'Israël, mais ça sera quelque chose d'universel. Et je crois qu'il y a un mot qui nous est employé dans la Bible qui trouve sa véritable place, et c'est le mot juste, c'est le mot rédemption. Voilà, le mot rédemption. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, mais que contient ce livre ? On ne le sait pas, puisqu'il est scellé. On va l'apprendre au fur et à mesure de notre cheminement dans les autres chapitres de l'Apocalypse. Ce livre est scellé, donc il est mystérieux. Mais il y a cette petite annotation qui nous est donnée, et ce que nous avons lu il y a un instant, il est écrit en dedans et en dehors. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il ? C'est très simple. C'est qu'à l'époque, on n'écrivait pas sur des livres comme nous avons. On écrivait sur des parchemins, des rouleaux. Donc, ça pouvait être tout à fait compréhensible et facilement interprété. C'était de longues bandes de parchemin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela ? Il s'agit tout simplement, dans ce livre, de toute l'histoire de la misère, de la corruption et la dégradation de l'espèce humaine. Ouais. Les choses sont écrites. Elles sont consignées dans ce livre. Il s'agit de la description précise de tous les forfaits qui ont été perpétrés dans l'histoire, dans le temps, mais aussi de leur mobile inavoué, c'est-à-dire que tout ce qui est secret, tout ce qui n'a pas été élucidé, tout ce qui est resté dans le secret, tout ce qui était resté dans l'ombre, dans les ténèbres, qui a été bien caché, qui a été fait en sorte que, eh bien, on ne le sache pas sur cette terre. Une chose qui est certaine, c'est que dans ce livre, tout sera révélé. Tout sera jeté à la pleine lumière. Et rien ne restera dans l'ombre. Mais il y a toujours cette pathétique interrogation qui revient. Qui est digne ? Qui est digne ? Et personne dans le ciel, avons-nous lu tout à l'heure, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Voilà, constatation. Alors s'il n'y a personne, qu'est-ce que nous pouvons en déduire ? S'il n'y a personne qui peut ouvrir le livre scellé, nous pouvons en tirer cette conséquence, c'est que le monde est condamné pour l'éternité, le monde est condamné à toujours. Il n'y aura jamais de solution et de réponse. L'iniquité se perpétuera, le prince de la mort triomphera et ne sera jamais détrôné. Or, nous savons que le livre de l'Apocalypse nous parle, et nous l'avons vu la fois dernière, qu'il y a déjà un trône qui est installé. Un trône. Donc le prince de la mort triomphera et il ne sera jamais détrôné, et à ce titre-là, le mal ne prendra jamais fin. Ça veut dire que l'éternelle tragédie de l'enfer continuera. Oui, parfois certains l'ont dit, l'ont écrit, l'ont exprimé, que l'enfer c'est déjà sur la terre. Mais pour nous qui sommes chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, il y a une espérance. Parce que s'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas eu la rédemption en Jésus-Christ, s'il n'y avait pas eu la croix, s'il n'y avait pas justement cette ouverture que nous voyons dans le ciel, alors à ce moment-là, il y aurait de quoi désespérer. Il n'y aurait rien à, finalement, aucun secours. Le ciel resterait d'airain, le ciel resterait dans le noir le plus complet. Alors à ce moment, le sort et la destinée du monde est suspendu. Et le verset 4 nous explique ceci. Il nous est dit, et c'est Jean qui parle, « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » L'apôtre Jean, qui lui a vécu, qui a connu Jésus, saisi, ravi en esprit, parce qu'il lui a été donné l'insigne privilège de voir ce qui se passe dans le ciel. Comme dans un autre temps, Paul nous dira qu'il était ravi jusqu'au troisième ciel en esprit, et il a vu des choses ineffables qui ne peuvent pas être dites, expliquées, commentées ou quoi que ce soit. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Jean va être profondément troublé, parce qu'il y a d'un côté certainement quelque chose de lumineux qui s'approche, mais encore tellement insaisissable et tellement lointain. Et puis il y a naturellement le monde qu'il connaît, puisque... C'est un homme comme les autres et il voit bien naturellement que s'il n'y a pas de solution, si personne ne peut intervenir pour ouvrir ce livre, le prendre, le regarder, briser les scellés, alors à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Alors qui ? Qui peut ouvrir et briser les sceaux du livre ? Nous continuons avec le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'il y a toujours une consolation avec le Seigneur. C'est ne crains point, ne pleure pas, parce que Dieu a toujours une réponse. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, il n'est jamais dépassé par rien. Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Un de ceux, parmi les vieillards, et vous savez ce que signifient justement ces vieillards, les 24 vieillards. On en a parlé la fois dernière. Un de ceux qui a fait l'expérience du pouvoir miraculeux de Christ. Comme chacun d'entre nous. Parce que c'est un miracle d'être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un miracle de croire. C'est un miracle que la nouvelle naissance. C'est un miracle de se repentir. C'est un miracle que de naître de nouveau. C'est un miracle de se convertir. Donc, voilà. Dans l'image de ce vieillard qui représente l'Église glorifiée, alors, il rappelle à Jean que quelqu'un, un seul et unique, dans le ciel et sur la terre, a le pouvoir et la dignité parfaite. Il est nommé, et nous l'avons lu, le lion de Juda et le rejeton de David. C'est le moment où Jésus apparaît maintenant. On a avancé doucement. La fois dernière, on a parlé du trône. On a parlé de l'Église glorifiée. On a parlé du jugement qui approche. Maintenant, nous sommes, eh bien, là, dans la vision du ciel. Le trône est dressé. Le trône du jugement est dressé. Mais nous voyons que le seul qui va pouvoir accomplir les desseins de Dieu, les décrets de Dieu, s'appelle le lion de Juda et le rejeton de David. Et Jésus apparaît au devant de la scène. Jusqu'ici, mis à part le chapitre 1er que nous avons commenté au mois de septembre, il apparaît au devant de la scène. Il nous est parlé de son caractère et de son origine proclamée. Un lion par la force, et vous allez voir pourquoi il est appelé de cette manière. Un lion par sa force, et il est par surcroît descendant royal par sa filiation avec le grand roi de Juda Israël, c'est-à-dire David. Et tout cela corrobore et est conforme avec tout ce qu'a déclaré l'Écriture sainte. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il y a beaucoup de symbolique. Mais le livre de l'Apocalypse est la réalisation prophétique de tout ce qui a été déjà annoncé auparavant. Tout cela est conforme avec les Écritures. Et si nous voulons rechercher les textes où il est question du lion de Juda ou du descendant de David, vous allez en trouver autant que vous voulez. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, ce n'est pas une histoire qui se met en place au dernier moment pour faire bien. C'est quelque chose qui est déjà prévu depuis les temps et des temps. Mais où est-il? Où est ce glorieux vainqueur? Alors le verset 6 explique « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Au milieu du trône, l'Église glorifiée l'entoure en témoignage vivant de son pouvoir victorieux. Parce que s'il y en a qui peuvent dire qui est Jésus, ce sont ceux qui l'ont sauvé. Nous pouvons dire et nous pouvons confesser qui est Jésus. Par l'expérience, non pas par la connaissance uniquement, mais par l'expérience. Ou l'expérience qui nous a donné la connaissance et l'approfondissement que nous le connaissons, comme lui nous connaît. Alors, c'est un vivant témoignage de son pouvoir victorieux, mais il y a une surprise. Parce que dans le verset précédent, il était question d'un lion. Et la surprise, que il n'est plus présenté comme un lion, mais la vision est celle d'un agneau. C'est quand même très différent, un lion et un agneau. Hein. C'est pas la même chose. Parce que l'image de l'agneau rappelle à tous, l'esprit de sacrifice. Et nous ramène à la croix. Et nous ramène à l'histoire d'Israël. Simplement, pour mémoire, 29 fois appelé dans le Nouveau Testament agneau de Dieu. Jean-Baptiste qui ouvrira, dernier prophète de l'Ancienne Alliance, qui ouvrira le règne de l'Évangile ou du Messie, dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Il sera présenté de cette manière. Ça nous paraîtrait peut-être étrange en disant « Voici le lion de Juda. » Ça aurait été peut-être exclusif pour les Juifs. Mais l'agneau de Dieu, c'est pour le monde entier. Et je crois que c'est intéressant de prendre en considération ceci. Jésus a pris une fois pour toutes, et je vous renvoie dans le livre des Hébreux, Jésus a pris donc une fois pour toutes la place des agneaux immolés à la Pâque. Donc, il en est fini des holocaustes, qui étaient faits là chaque année, qui étaient renouvelés en permanence, où eh bien, les Juifs montaient au temple de Jérusalem à plusieurs reprises et offraient finalement eh bien, le sang de ces agneaux. C'est terminé. Parce que Jésus, la Bible nous le dit, la parole de Dieu nous le confirme, le livre des Hébreux, eh bien, là, eh bien, le marque d'une manière tout à fait particulière, il s'est immolé lui-même, et il a fait l'expiation des péchés du monde entier. Et Jésus est là, en agneau. Et il nous est rappelé, la vision que nous avons dans le ciel, c'est aussi, c'est avant tout, l'agneau, venu une première fois pour donner sa vie en sacrifice, cette vie qu'il a connu dans l'humiliation de la terre, mais il revient en lion. Il revient en lion pour exercer avec force le jugement. C'est pour ça qu'il est question du lion et de l'agneau. Parce qu'il y a la symbolique de ces deux animaux pour nous montrer qu'ils ont chacun un rôle particulier. L'agneau dans l'humilité, l'agneau dans le sacrifice et le lion dans la force qui va montrer monde, qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et il revient en lion pour exercer donc le jugement divin. Alors le jugement de l'humanité, révoltée, incrédule, prendra à ce moment-là, dans l'histoire que nous rappelle l'Apocalypse, écoutez bien, prendra le pas sur la grâce offerte, mais hélas rejetée par les hommes. Si la grâce n'a pas son effet, c'est le jugement qui prendra le relais. Comme, dans le sens inverse, nous étions sous le jugement, mais parce que nous avons cru, eh bien la grâce a pris le pas sur le jugement. Mais nous sommes dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, les choses vont s'inverser tout à nouveau. Puisque la grâce a été donnée, a été répandu sur le monde entier par le message de l'Évangile, par la proclamation, par l'annonce de Jésus, qui est venu comme un agneau pour donner sa vie, mais une grande partie de l'humanité n'a pas voulu, n'a pas reçu, n'a pas cru. Alors à ce moment-là, les choses vont s'inverser. C'est que au mépris que les hommes ont donné à la grâce, eh bien, ils vont recevoir le jugement. C'est terrible, mais c'est comme ça. Puisque nous arrivons dans la fin des temps de la grâce. Alors on se dit, Seigneur, tu n'es pas rapide. Seigneur, tu devrais juger plus tôt. Mais le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. C'est qu'il veut encore donner la grâce. Il veut encore prolonger. Et il veut encore permettre à des hommes et des femmes eh bien, d'entendre le message du salut, le message eh bien, du Sauveur. Parce que cette grâce, malheureusement, est rejetée. Il nous est dit que cet agneau a 7 cornes et 7 yeux. Signifiant la puissance, dans la Bible, la corne a toujours une connotation, une signification de force et de puissance. Donc, il a 7 cornes, la puissance divine cachée dans un corps d'homme, et les 7 yeux, la plénitude de l'esprit, qui imagine toute la sagesse et toute la lumière, sont dans les cœurs, sont dans les plaies des hommes, toutes les souillures et les injustices de l'humanité. Rien ne sera laissé dans le secret. À la fois les souffrances, les peines, les larmes, mais d'un autre côté, ce que les hommes, eh bien, ont été en capacité de commettre d'abominations et de choses eh bien, innommables. Cornes et yeux équivaut à la puissance et à la connaissance parfaite pour exercer une justice non moins parfaite. Parce que nous sommes dans la dimension de la perfection. Si tout est précaire et si tout est réduit à ce que nous connaissons et toute cette fragilité de cette humanité, de cette existence de l'homme sur la terre, De l'autre côté, c'est la perfection, c'est la totalité, c'est-à-dire une justice divine, tout simplement. On poursuit avec le verset 7. « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Il est vraiment le seul digne, il est vraiment le seul capable, ayant l'autorité pour. Maintenant, ça y est, il est introduit, il vient, il s'avance. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Prières des saints. Il s'avance, il vient. Et vous allez découvrir avec moi que lorsque nous allons cheminer dans le livre de l'Apocalypse, on a le sentiment que l'on marche. On va vers un terme, enfin. On a vu déjà les 5 premiers chapitres, enfin on est sur le 5e. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va aller de plus en plus comme ça. Ça donne le sentiment au lecteur ou à l'auditeur, eh bien que dans les derniers moments, les choses vont s'accélérer. Donc il s'avance. Et c'est un instant sublime dans le ciel. Et c'est une occasion d'un acte suprême, je marque bien, l'occasion d'un acte suprême d'adoration dans la contemplation du roi sauveur et du seigneur de l'univers. Et maintenant, nous allons dire quelques mots sur l'adoration. Parce que tout le reste du chapitre, il s'agit de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration sur la terre. On la confond souvent avec la louange. L'adoration sur la terre, c'est quelque chose auquel on n'est pas trop habitué. On est beaucoup plus habitué à la prière qu'à l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration ? Le mot adoration vient du grec proskuneo. Ça veut dire se prosterner. Quand on adore et qu'on est assis sur une chaise, on ne peut pas dire tout à fait qu'on adore. Quand on est debout, se prosterner, c'est se mettre en terre, tout simplement. Ça pourrait, finalement, vouloir dire servir, mais un service tout à fait particulier. Selon le dictionnaire courant, adorer, c'est rendre un culte. Bon, c'est souvent une notion religieuse que nous pouvons avoir. Par hyperbole, adorer, c'est avoir un regard passionné. Pour quelqu'un. C'est avoir un goût d'une extrêmement vif pour quelqu'un. Dans son acceptation affective, adorer est synonyme de chérir, d'aimer par-dessus tout. Adorer est lié avec l'amour. Et il y a trois dimensions de l'amour. Il y a l'amour éros. Il y a l'amour philéim et il y a l'amour agapé, l'amour divin. Et il y a cette notion naturellement d'amour. Le grand écrivain religieux, on pourrait dire, mais sa citation est quand même pertinente, me semble-t-il, Bossuet, écrit ceci, « Adorer, c'est reconnaître en Dieu la plus haute souveraineté et en nous, tout simplement, la plus totale dépendance. Il est au ciel, moi je suis sur la terre. Donc, je me prosterne. » Pour un autre auteur, il écrit ceci, « C'est le voir partout en parlant de Dieu. C'est l'apprécier partout. C'est le regarder comme le summum ou le sommet de notre désir, le considérer en tout comme une fin. » Je trouve que c'est assez pertinent comme citation. Pour le théologien contemporain Karl Barth, il dit ceci, « L'adoration, c'est la contemplation de sa grandeur, de la profondeur de son amour. C'est la soumission totale de l'homme à la fois baissé, émerveillé, bouleversé et rempli de joie. » Je souscris. Adorer, c'est ça. Je vais le relire. Écoutez. « Contemplation de sa grandeur. De la profondeur de son amour, c'est la soumission totale de l'homme à la fois abaissé, émerveillé, bouleversé et rempli de joie, d'allégresse. et pour un auteur que nous connaissons bien puisqu'il est dans nos milieux, aussi un auteur contemporain, commentateur de la Bible, Doré, il dit ceci: « Adorer est une expérience mystique de plénitude, vécue au centre de notre être et dans le secret de Dieu. Dans l'adoration, nous nous absorbons en Dieu lui-même. » Alors, ça, c'est la réalité de la terre. Mais lorsque nous serons de l'autre côté, adorer, ça sera encore une autre dimension, parce que nous aurons été dépouillés de notre corps d'humiliation, de toutes ces contingences, de toutes ces choses qui nous rendent esclaves, et nous serons véritablement dans la libération complète et totale pour adorer notre Dieu. Je voulais le dire parce que dans le texte que nous sommes en train d'entrevoir, eh bien il est question justement de cela à travers ce qui nous est dit, parce que ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous avez remarqué, chacun tenant une harpe et des coupes d'or. Nous entrons dans ce que nous pourrions appeler, peut-être, le ciel mélodique. Il y a de la musique sur la terre. Mais dans le ciel, il y a de la musique aussi. La musique céleste, la musique de Dieu, la musique divine. Rien à voir avec nos instruments et nos voix, même les plus belles. Ouais, rien à voir. Et nous le découvrirons, nous l'entendrons, nous le vivrons et nous participerons à ce concert. Une harpe. La harpe. On en a une harpe. C'est dommage que notre ami soit parti. La harpe produit une sonorité cristalline d'une grande douceur qui rend plus digne encore l'adoration donnée à l'agneau. Ce n'est pas une guitare, ce n'est pas un piano. Ce n'est pas autre chose. C'est une harpe. C'est merveilleux la harpe, hein. C'est peut-être une sonorité sublime. Ce n'est pas pour rien qu'on la trouve dans le ciel. Et il y avait également dans les mains de chacun des coupes d'or remplies des prières des saints. Il s'agit des emblèmes du rôle et de la valeur inestimable des prières. Je ne sais pas quel homme a prié le premier sur la terre. Oh, ça remonte très loin, hein. Je n'ai pas fait la recherche ce soir pour vous dire. Mais tout au long des pages de notre Bible, vous avez des hommes qui découvrent Dieu, qui invoquent Dieu, qui se tournent vers Dieu, qui construisent des autels à Dieu, qui louent Dieu, qui bénissent le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui crient à Dieu, qui demandent à Dieu. Tout au long. Et tout cela, eh bien, c'est contenu, paraît-il, dans des coupes. Les prières que nous avons faites ce soir, nous sommes dans une réunion de prière, hein. Eh bien moi je crois qu'elles sont entendues dans le ciel. Seigneur, pourquoi il n'y a pas autant de réponses? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Pourquoi tu ne fais pas trembler les murs? Comme le jour de la Pentecôte à Jérusalem, on aimerait que tu nous entendes et que tu nous dises que tu nous entendes. Mais nos prières sont entendues. Lorsque vous êtes enfermé dans votre chambre, dans votre maison, pour un culte personnel ou un culte en famille, mais le Seigneur entend vos prières. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que votre cœur, à ce moment-là, eh bien, part en intercession pour quelqu'un ou pour une chose ou une autre, hein, ou dans la prière de louange, mais elles sont entendues dans le ciel. Les cris de souffrance et de misère sont entendus dans le ciel. Alors, c'est tout le rôle de la prière. C'est toute la valeur inestimable des prières. Dans toutes les langues, imaginez-vous un petit peu sur la terre entière. Des hommes qui prient en français, qui prient en allemand, qui prient dans les dialectes. Mais en ce moment, il y a des prières qui montent. On ne peut pas s'imaginer, parce que nous sommes localisés, mais on ne peut pas s'imaginer des millions et des millions de gens qui sont en train de prier Dieu. Au moment où je suis en train de vous parler. Ça, c'est quelque chose. Il y a des prières de louange, des prières d'adoration, des prières d'allégresse, mais il y a des prières aussi de souffrance, des cris. Il y a toutes sortes de choses, mais tout cela, eh bien, ça monte vers le ciel. Lesquelles prières, contenues dans ces coupes d'or, viennent s'ajouter au sacrifice sanglant de Christ, parce que tout part de là, tout est là. C'est parce que nous croyons au sacrifice de Christ que les prières montent. C'est parce que nous avons eu cette introduction auprès du trône de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons prier aujourd'hui. Jésus nous a appris les plus belles prières qui soient. Hein. Ça commence par le Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis tout le reste que vous connaissez naturellement. Hein. C'est Dieu d'abord dans le Notre Père. Et ensuite ce sont nos besoins. Et après ça se termine encore pour la gloire de Dieu. À toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Voilà. Tout cela nous rappelle cette symbolique qu'il y a très souvent dans l'Ancien Testament, c'est cet encens qui fume sur l'autel des parfums, dans le temple de Jérusalem ou dans le tabernacle, dans le désert. Alors, allons un peu plus loin. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre » et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ils entonnent un cantique. Et vous remarquerez que c'est un cantique nouveau, qui n'a jamais été chanté jusqu'alors. Un cantique nouveau qui proclame à la face de l'univers entier le droit et l'autorité absolue qu'a l'agneau de Dieu d'ouvrir le livre, un signe prérogatif, conséquence de son sacrifice expiatoire à la croix. C'est parce que Jésus est allé à la croix qu'il a le droit, qu'il a l'autorité, qu'il a le pouvoir, qu'il a la puissance, qu'il a l'assentiment de son Père dans le ciel pour pouvoir ouvrir le livre, briser les sceaux et de pouvoir maintenant en faire la lecture. De pouvoir révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as été immolé et tu as racheté. Il s'agit du sacrifice rédempteur. Il est question de rachat. Il est question de substitution. Il a pris notre place, tout simplement. Et on assiste alors à ce moment-là, dans ce verset 9, à un extraordinaire concert qui s'amplifie tout autour du trône. C'est quelque chose de concentrique qui s'en va de plus en plus et qui rayonne dans l'univers entier. Il ne s'agit pas seulement de notre petite planète, mais c'est dans l'univers qu'il y a cette amplification. Ouais, rien à voir avec nos amplificateurs électroniques. Faible puissance. Même quand ils nous cassent les oreilles, là c'est l'univers entier qui va être rempli de cette proclamation que Christ est bien celui qui est digne d'ouvrir le livre. Parce que tout ce qui a voix sur la terre, dans le ciel, les hommes, même les langages, les animaux ont un langage. Il paraît que même les étoiles ont un langage. J'ai entendu dire, on les écoute, on met des micros dans le firmament pour écouter les étoiles. Tout ce qui a voix, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'expression de ce langage, alors tout ce qui a voix loue et adore le Seigneur et adore Dieu. Tout est ramené à l'adoration de Dieu. C'est l'hymne de la création, c'est l'hymne de la créature et de la nature, tant céleste que terrestre, qui forme un cœur glorieux et universel. On apprendra à chanter de l'autre côté, vous savez. On apprendra à jouer de la musique. Et on aura peut-être les anges comme maître de chant ou de musique, je ne sais pas. Et on aimera chanter. Et il n'y aura pas de fausses notes. Il n'y aura pas de gens qui chantent faux. C'est pas possible. Ben imaginez-vous. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Hein, oui. Un cœur glorieux. Ce cantique nouveau dont il nous est parlé, ce cantique nouveau éclatant, donne la preuve que l'évangile de Christ répond absolument aux besoins de salut de tous les hommes, dans tous les temps, à divers niveaux de civilisation et de culture, que seul le Christ, seul le lion de Juda, seul l'agneau de Dieu, eh bien, a le droit et le pouvoir de juger désormais et maintenant le monde entier. C'est parce que l'évangile a été prêché. C'est parce que des hommes de toute race, de toute langue, ont été suscités par un appel, une vocation, pour dire « Croyez en Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu en mettant votre foi en Jésus-Christ. » Et ce n'est pas seulement limité à notre petite terre, mais c'est l'univers entier qui entendra et qui aura la preuve, les anges et toutes les créatures célestes, les démons, les puissances mauvaises qui reculent, qui se cachent. Alors, à ce moment-là, on comprendra que vraiment le choix que Dieu a fait de donner son propre Fils pour mourir, pour le salut des hommes, que cet évangile que l'on appelle la bonne nouvelle, eh bien c'était vraiment la réponse de Dieu. Tout était parti de travers avec le jardin d'Éden, et maintenant, à travers la venue du Christ, la venue du Messie pour les Juifs, la venue du Sauveur, tout repart dans la bonne direction. Tout est remis en place. Et c'est adapté à tous les hommes, dans tous les temps, à toutes les civilisations, toutes les époques, toutes les cultures, pour bien mettre en place que c'est Christ, Christ et Christ seul qui sauve. Et c'est lui qui a le droit de juger maintenant. Il est venu pour sauver maintenant, pour tous ceux qui ne veulent pas être sauvés, il est venu pour les juger. C'est redoutable, c'est terrible. Mais ce n'est pas le fait de Dieu, c'est le fait d'un choix de l'homme, tout simplement. Le verset 9 nous dit ceci à la fin, tout simplement, je le rappelle, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Je voudrais quand même donner une petite note. « C'est-à-dire tous les groupes ethniques, tribus, tous les groupes linguistiques, les langues, tous les groupes politiques, les peuples, tous les groupes sociaux, les nations, sont au bénéfice de la grâce de Dieu. » Cette armée de vaincus victorieux, ça c'est quand même difficile peut-être à comprendre et à entendre, parce que nous sommes quelque part aux yeux de la terre, aux yeux des hommes puissants de la terre, de ces hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes, nous sommes des vaincus, mais nous sommes des vaincus victorieux, tout simplement. Alors, ces vaincus victorieux glorifient Dieu pour son appel et leur vocation, parce que le verset 10 nous dit ceci, « Tu as fait d'eux un royaume. » Et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu, et, écoutez bien ce qui nous attend, ils régneront sur la terre. Ça, c'est quelque chose. Méprisés sur la terre, mais glorifiés dans le ciel. Nous sommes devenus des prêtres et des servants de Dieu, donc des sacrificateurs. Et à ce titre, je voudrais simplement, je n'ai pas cité beaucoup de versets cette fois-ci, mais dans 1 Pierre, il nous est donné justement le sens et la compréhension de ces sacrificateurs. Écoutez au chapitre 1 Pierre chapitre 2 et au verset 5 d'abord, il est dit ceci. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au verset 9 et 10, il est simplement dit en continuité, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est encore la grâce, et la grâce est toujours la grâce. C'est encore la grâce si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous pouvons servir le Seigneur. C'est une grâce de le servir. Une grâce de pouvoir dire, eh bien voilà, moi je connais Jésus, et de le partager avec les autres. Sommes des prêtres, des sacrificateurs pour notre Dieu. Et puis, il nous est précisé qu'ils régneront sur la terre. Nous sommes des princes en son royaume, parce que nous lui appartenons dans un but bien particulier, c'est pour régner. Vous savez, les hommes ont toujours voulu régner sur la terre. Ils se sont détruits, ils se sont ensanglantés, ils se sont méprisés, ils se sont haïs pour régner sur la terre. Mais nous, notre espérance, c'est que nous ne régnerons pas ici, nous régnerons de l'autre côté. Et celui qui veut régner sur la terre ne régnera pas de l'autre côté. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne règne pas à la manière dont les hommes veulent régner. C'est pas possible. Alors nous lui appartenons, et avec lui, ce qui nous rapporte à la pensée, ce qui nous reporte à la pensée du millénium, que nous découvrirons lorsque nous arriverons, d'ici quelque temps, au chapitre 20. Ça sera en 2011, si vous avez la patience d'attendre. Peut-être la fin 2011. On n'est pas rendu à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais Timothée nous dit ceci, et je crois qu'il est tout à fait pertinent, parce que c'est Paul qui nous dit cela quand il écrit à Timothée, au 2 Timothée, chapitre 2 et verset 12. Il est dit ceci, tout simplement, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Hein. Mais pas seulement vivre avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je termine, verset 11, dans notre texte de référence. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Alors, si vous avez une calculette, allez-y. Vous allez me dire ce que ça veut dire. Ce qui interpelle notre imagination dans le texte, ici, c'est le chiffre incalculable. Incalculable. Incalculable de qui ? D'adorateurs. Parce que ça, c'est la finalité de tout, hein. Dieu nous a créés pour l'adorer. Il ne nous a pas créés pour autre chose. Pour l'adorer. Le nec plus ultra et ultra de notre vocation et de notre appel. Pour que nous soyons des adorateurs. Et quelquefois on se dit, mais Seigneur, on est si peu. C'est vrai. Dans notre grand pays, ou dans notre monde, on se dit, mais on est si peu de chrétiens. Bien, on va avoir des surprises. Hein. On aura des surprises, je le crois. Parce que non seulement il n'y aura pas seulement nos contemporains, mais il y aura la confluence de tous ces hommes de tous les temps. Et puis, par-delà ce que nous ne voyons pas, on aura peut-être aussi des surprises de voir des gens, on ne leur aurait certainement pas donné le titre d'adorateur. Hein. Mais, quand l'œuvre du Saint-Esprit se fait, quand ils se convertissent, quand ils se repentent et qu'ils naissent de nouveau, ça change tout. Hein. Ça change tout. Vous savez, quand on voit un Jacob, on peut toujours espérer qu'on finisse adorateur. Et pourtant, il n'en prenait pas la voie. Quand on connaît son histoire, ça c'est sûr. Donc, un chiffre incalculable. Je cite simplement pour mémoire des séraphins. On n'a pas le temps d'en parler. Des chérubins, des archanges, des anges. Et puis, la cohorte infinie des rachetés. Comme l'Ancien Testament nous le dit très souvent, comme le sable sur le bord des mers, sur les plages de la mer, ou comme les étoiles dans le ciel. Ça représente, hein. Vous prenez seulement un verre, vous allez sur la plage, là, à côté. Vous prenez un verre et vous comptez tous les grains, vous n'êtes pas sorti. Et il y a plus qu'un verre sur la plage, hein, plus qu'un verre de sable. Verset 12, pour bientôt finir, il disait d'une voix forte, « L'agneau a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et c'est la proclamation des vertus parfaites de l'agneau. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il y en a 7. Vous avez remarqué ? Et vous allez découvrir avec moi, parce que là on va y rentrer à partir du chapitre 6, vous allez découvrir que tout marche sur 7. Le livre de l'Apocalypse, c'est comme ça. Les 7 églises, on l'a déjà vu ça, hein. Mais tout va fonctionner avec le chiffre 7. De la totalité, chiffre de la totalité de la perfection, tout simplement. Et c'est le point culminant dans cette proclamation de ces vertus divines, c'est le point culminant de l'amour de Dieu que révèle le mystère de la rédemption. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Se prosternèrent et adorèrent. La conclusion, ils se sont prosternés et adorés. on revient à la définition de ce que nous avons donné sur le sens de ce qu'est l'adoration. L'univers est gouverné par Dieu sur son trône, au travers de l'agneau. On le sait maintenant. Et on sait qu'ils ne sont pas perdants, ils ne sont pas vaincus, ils sont vainqueurs. Lequel agneau s'est mis à la droite de Dieu ? Et je voudrais lire simplement ce texte qui résume tout cela dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 21, parce que je crois qu'il est sublime. L'apôtre Paul, comme Jean, avait la révélation de la souveraineté divine de Jésus-Christ, la souveraineté de Jésus-Christ. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 21, écoutez bien ce qu'il est dit. Ou verset 20. « Il l'a déployé en Christ. Dieu a déployé sa puissance, parce que c'est cela, il a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Et maintenant, nous voyons la position. « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » L'univers lui appartient. Notre petite terre lui appartient aussi. Notre petite vie lui appartient. Notre petit cœur aussi. Il s'est assis à la droite de Dieu dans la souveraineté. Tout concourt à la gloire de Dieu. L'agneau règne. C'est pourquoi les croyants, parce que nous allons changer de régime la fois prochaine, c'est pourquoi les croyants que nous sommes, le lecteur de l'Apocalypse, celui qui médite cette parole de l'Apocalypse, celui qui en fait l'étude, comme on l'a dit au départ, le croyant n'a rien à craindre lorsque surviendra la tribulation, la persécution et les temps du jugement qui s'ouvrent avec maintenant le chapitre 6. J'attends 2011 pour vous donner la suite. On va rester tranquille encore en 2010. D'accord ? Mais 2011, chapitre 6, on va rentrer véritablement dans quelque chose qui mérite le mot d'Apocalypse. Mais vous verrez, et vous ne perdrez pas de vue que la grâce est encore là. Elle reste toujours là, la grâce. Parce que Dieu est invariable. Il ne change point. Alors, à ce moment-là, nous ouvrirons ce sixième chapitre qui s'appelle « L'ouverture des six premiers sceaux du livre » que nous pouvons dire maintenant en conclusion. Le livre décelé, puisque quelqu'un l'a ouvert. Et celui qui l'a ouvert, c'est Jésus. Alors que Dieu nous bénisse. On a été faire un petit tour dans le ciel, et là, après, on va redescendre quand même un peu sur la terre pour voir ce qui s'y passe. Et ce qui se passera sur la terre, c'est que ça vient du ciel. Et Dieu en a tout à fait parfaitement à la maîtrise. Et on va voir le comportement des hommes. On va voir comment ils réagissent. On va voir s'ils ont foi ou incrédulité. On va voir. Alors que Dieu nous bénisse ce soir à travers cette étude. Alors j'avoue que ce n'est pas facile à comprendre, mais je me suis efforcé de rendre les choses le plus simples possible, ce qui n'est pas facile non plus. Alors que Dieu nous bénisse, on va simplement terminer en remerciant le Seigneur. En tous les cas, on sait ce que ça veut dire maintenant le mot « adoration ». Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment nous incliner devant toi pour dire gloire à Jésus-Christ, gloire à notre Sauveur, gloire à notre Seigneur. Et merci, notre Père, de ce que tu as compassion, de ce que tu as eu compassion de notre misère, de notre humanité, de toute notre déchéance. Parce que tu sais, Seigneur, de quelle argile nous sommes faits, Seigneur. Nous sommes si vulnérables, si fragiles. Mais c'est bien parce que justement tu sais tout cela, que tu es venu nous secourir et nous tendre la main. Et cette main, Seigneur, tout simplement, elle représente ta grâce. Elle représente, Seigneur, ton pardon pour chacun d'entre nous. Elle représente ta miséricorde. Parce que si nous avions pu nous sauver, Seigneur, par nos propres forces, ou par notre propre justice, ou en mettant tout simplement, la loi absolument en pratique, alors Jésus ne serait pas venu. Il ne serait pas mort sur la croix. C'est parce que justement, devant tout cela, devant le péché, devant la mort, nous ne pouvons que nous incliner en disant que nous sommes tout simplement impuissants et incapables. Mais tu as rendu quelqu'un capable pour que nous puissions, Seigneur, eh bien regarder à lui et que nous devenions à notre tour capables de croire que les choses sont faites, que les choses, Seigneur, en effet arrivent et que tu reviens bientôt, Seigneur, pour enlever ton Église, pour prendre ton Église avec toi pour qu'elle règne, en effet, dans les lieux célestes. Mais Seigneur, hélas, nous croyons, Père éternel, que si la grâce a été épuisée, si les hommes ne veulent pas de la grâce, il ne reste qu'une autre, une alternative. C'est tout simplement, eh bien, le jugement. Alors donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole et ainsi peut-être de prier pour ce monde encore. Prier pour ces hommes qui se perdent, parce que si nous n'avions pas été éclairés, jamais nous n'aurions connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors nous voulons te remercier. Alors nous voulons tout simplement dire que nous bénissons, nous adorons, nous nous prosternons devant le nom de Jésus-Christ, le nom de glorieux de Jésus. Ah, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et loué au nom de Christ. Amen. Amen.